La question n'est pas de savoir si on va être attaqué sur le web, mais quand. Cette mise en garde revient dans la bouche de chaque spécialiste interviewé après une attaque de pirates sur une entreprise. Y aurait-il des bandits de grand chemin qui m'attendent à chaque carrefour du web? La cybersécurité, ça me concerne?
Ah bien sûr, tout le monde est concerné. Dans la mesure où nous utilisons des équipements électroniques, de l'informatique, des tablettes, des téléphones, des jeux vidéo, produisons des données et surtout nous sommes en connexion, nous sommes connectés à d'autres environnements. Donc la cybersécurité va nous concerner du fait que en branchant un équipement électronique sur Internet, ce n'est pas qu'un système que l'on branche, mais c'est nos vies.
Microsciences. Un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui va nous aider à naviguer dans un monde numérisé et nous faire flipper aussi un peu, en toute sécurité, ou presque. Solange Guernaouti est professeure à l'Université de Lausanne, experte internationale dans le domaine de la cybersécurité, la cyberdéfense et la lutte contre la cybercriminalité. Elle est co-autrice du roman Off, écrit à quatre mains avec Philippe Monin et paru aux éditions Slatkin.
Alors, entendons-nous bien, le numérique, c'est un fabuleux outil pour réaliser des services, pour mettre en œuvre tout un tas d'opérations. Donc, il y a vraiment un côté bénéfique qui peut être apporté par l'usage du numérique, à condition que l'on soit en mesure d'en maîtriser les risques. Et ces risques concernent les individus, toutes les entreprises, toutes les organisations publiques ou privées, les grandes, les petites, et aussi tous les États qui sont aussi consommateurs du numérique.
Et ça en fait du monde. Et on va décortiquer tout cela. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, c'est flou. D'ailleurs, je ne le vois pas, ce danger.
Il est d'autant plus difficile de lutter contre une violence qui est invisible et qui est invisibilisée du fait également que nous communiquons sans fil. On n'a plus de fil à la patte, on n'a plus cette matérialité. Et donc, c'est dans cette dématérialisation de nos activités que se trouve la fragilité.
Fragilité ? Un ordinateur, un programme. L'informatique, c'est du solide, du lourd. Et ce sont des gens qui écrivent des codes très compliqués, sortis du cerveau humain. Il est où le problème ?
Le problème, c'est que nous utilisons des solutions informatiques qui sont vulnérables, qui sont conçues avec des vulnérabilités et qui sont autant de points d'entrée dans nos systèmes et dans les systèmes d'information auxquels nous sommes reliés pour s'approprier cette valeur qui est la donnée. Il faut comprendre que le 21e siècle, c'est le siècle de l'information comme nouvelle valeur monétaire. Et c'est l'information sur l'or qui a de l'importance et non pas l'or lui-même, par exemple. Donc on voit bien que cette information sur laquelle on a développé une économie du numérique est faite pour exploiter des données, pour capter, collecter, exploiter des données. Et ça a de la valeur. Et nous, si nous ne voyons pas la valeur et que nous voyons que le service rendu, eh bien, on sait que cette valeur est exploitée par d'autres.
Ah, les données. C'est donc ça, la faille dans nos systèmes. À chaque fois qu'on connecte son téléphone ou son ordinateur ou son n'importe quoi à Internet, à un réseau, nos données sont potentiellement exposées.
C'est pas potentiellement, les données sont collectées. Si vous lisez attentivement les conditions d'utilisation, vous le savez. Et de même qu'on profite aussi de cette connexion pour avoir ce qu'on appelle des petits programmes de surveillance, les cookies, ce sont pas des gâteaux, c'est ce qui permet de vous identifier. Et à partir de cette identification de votre terminal, du moment où vous êtes connecté, de l'endroit où vous êtes connecté, de ce que vous faites lors de votre connexion, eh bien, il y a un profilage des individus qui se fait. C'est-à-dire une collecte d'informations. Et donc, ce profilage est exploité à des fins commerciales. Et ça, nous le voyons jamais.
Je comprends, on me pique des infos sur moi quand je me connecte. Mais quand je cherche une paire de chaussures pour l'hiver prochain sur un moteur de recherche, je n'ai pas l'impression de livrer une information capitale sur moi.
Quand je consomme quelque chose, un bien même tangible, c'est-à-dire physique, quand je vais me déplacer ou prendre le train, je vais laisser une trace numérique. Et c'est la différence entre la donnée et la trace, qui est la trace qui est invisible, et c'est celle-ci qui est exploitée. Donc on arrive à donner une image de ce qu'on est, de là où on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime, enfin de nos comportements, de nos sentiments, de nos relations. C'est ces informations-là qui sont exploitées, à des fins aussi licites, c'est pas que les criminels. Quand vous achetez un livre dans une librairie, vous l'avez payé peut-être en liquide, votre livre, vous l'avez chez vous. Personne ne sait quand vous allez lire le livre, quelle page vous allez lire et à qui vous allez passer ce livre en disant que vous l'aimez bien. Parce que quand vous faites ça sur du numérique, on sait ce que vous lisez, on sait la manière dont vous lisez, si vous revenez 3 pages en arrière ou pas, au rythme auquel vous lisez, etc. Donc on peut en déduire tout un tas d'informations sur votre comportement et qui vous échappent. Et donc si vous avez consommé tel contenu, que ça soit un podcast ou autre chose, vous avez acheté telle autre chose, vous avez commandé tel truc, on sait faire ce profilage et cette agrégation des informations, parce que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est qu'il y a des brokers de données, c'est-à-dire des instances qui font de l'argent, enfin qui sont complètement licites, pour faire cette agrégation des données et de les revendre. Donc il y a un marché de la donnée qui est exploité à des fins criminelles, mais qui est aussi un marché licite de la donnée. Et ça échappe complètement aux consommateurs et on ne le voit pas.
Alors, quelque part sur des serveurs, une intelligence humaine ou même artificielle recrée un modèle de moi sur la base de l'ombre que j'ai laissée sur le web en passant.
Le plus important, me semble-t-il, c'est la construction à partir de ces données, d'autres données, d'une façon complètement obscure. Donc on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas comment ça va être utilisé, mais on sait que c'est fait. Et c'est le problème de cette non-maîtrise de ces données qui peut être préjudiciable à l'utilisateur. Peut-être que pour nous, usagers, monsieur et madame, tout le monde, dont je fais partie, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est cette projection numérique de nous-mêmes. C'est-à-dire quand vous utilisez un outil numérique, un service, un téléphone, dès lors qu'il y a de l'informatique, c'est cette capacité de collecter des données qui va faire être une projection de vous-même.
Donc un profil de moi irréel qui vit peut-être sa vie. Si ça se trouve, elle essaye des chaussures. Après tout, si ça peut m'aider à choisir ma prochaine paire de pompes...
Oui, puis vous proposez des services soi-disant personnalisés, de la publicité personnalisée pour faire du ciblage donc publicitaire, mais qui peut être du ciblage politique également. Donc il y a une exploitation des données qui est faite, et ce qu'on voit pas, et ce qui est, je trouve, un petit peu pervers, c'est pour pas me dire beaucoup, ou très pervers, c'est sous prétexte de personnalisation, pour qu'on vous offre qu'on propose une offre qui corresponde à vos besoins, il faut vous connaître. Donc plus on vous connaît, plus on peut vous cibler, et en fait, cette démarche-là, c'est une démarche d'uniformisation des utilisateurs. Parce qu'on vous fait croire que vous êtes différent, mais vous êtes traité comme un système, comme l'autre utilisateur. Avec juste un paramétrage qui est fait différemment, mais c'est une uniformisation du mode d'interaction entre les personnes.
Et ça, c'est troublant. Et un peu vexant aussi, j'en conviens. Mais cette moi numérique, celle qui a été inventée de toutes pièces avec mon historique, mes données, mes traces, elle n'a pas accès à mon vrai moi. Moi, je protège mes appareils avec un mot de passe.
Mais c'est qu'une partie de la solution, parce que vous n'allez pas, vous, avec les mots de passe, vous ne vous protégez pas de l'usage commercial et licite qui est fait de ces données. Vous pourrez éventuellement interdire à certains d'y accéder, mais on sait très bien que les mots de passe, même s'ils sont compliqués, ils peuvent être détournés. Si on utilise des gestionnaires de mots de passe, ils sont aussi piratés, donc il n'y a pas de confiance absolue à avoir. Donc ça permet de donner une illusion qu'on peut restreindre les accès ou que seules les personnes qui sont habilitées à y accéder peuvent y accéder à ces services ou à ces données, mais c'est qu'une protection à minima.
Mais ces données, elles sont quand même protégées, comme mon appartement, ma maison, elles sont à peu près sous clé. Et on le sait, aucun système ne peut résister trop longtemps à des intrusions indésirées. Alors quelle différence y a-t-il ?
Il faut peut-être s'imaginer vivre dans un appartement où il n'y aurait pas de cloison à l'intérieur, où tout serait vitré, où on serait complètement transparent. C'est entre guillemets, si vous me permettez, à poil. Et tout le monde peut voir. Comme si vous étiez en permanence filmé, et il y en a qui le font, qui ont peut-être du plaisir ou de l'intérêt à être mis à nu en permanence, y compris dans leur intimité. Mais ça veut dire aussi qu'avec cette économie du numérique, on a accompagné ce développement et de l'adoption des usages avec un mantra qui nous faisait croire que c'était la fin de la vie privée et que la vie privée, on n'en avait pas besoin et que c'était un concept de siècle passé.
Pourtant, oui, j'y tiens à ma vie privée. Mais je n'ai rien à cacher non plus. Finalement, mes données, elles vont se fondre dans la masse.
Donc, puisque vous n'avez rien à cacher, vous mettez, entre guillemets, toujours à poil, mais tout montrer, la part de secret, de l'intime, ça fait partie, on parle bien de jardin secret, de carnet intime, ça fait partie de la construction de l'humain. Et c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'il faut tout montrer. Et à qui le montrer? Et comment ça va être interprété? La joie, aujourd'hui, vous avez un pull noir. C'est pas grave d'avoir un pull noir, vous pouvez le montrer, tout le monde, franchement, c'est pas le problème. Mais qui vous dit qu'un jour, si on associe cette information, vous avez un pull noir, vous êtes allé à tel endroit, vous avez parlé avec eux, on vous catégorise pas dans une partie de personnes qui seraient justement, dont on pourrait se défier ou avoir de la méfiance contre, parce que justement, à un moment donné, vous étiez là, vous avez fait ci, vous avez parlé à un tel, et vous aviez un pull noir. Et c'est cette obscurité de ce traitement algorithmique qui pose problème.
Ok. ce n'est pas parce que je n'ai rien à cacher dans mon tiroir à sous-vêtements que j'ai envie que tout le monde fouille dedans. Mais les fournisseurs de mes services en ligne m'assurent que mes données sont stockées dans des endroits sûrs.
Non, il n'y a pas de garantie de sécurité. La preuve en est le nombre de cyberattaques, de rançongiciels aussi qui bloquent les systèmes. Enfin, il y a des vrais problèmes d'insécurité du fait de la façon dont nous faisons le numérique. Donc, on a ce problème-là où on peut être dans des situations, être obligé d'une façon incontournable de passer par du numérique et puis aussi par facilité, par divertissement. C'est là aussi la soumission des personnes par le divertissement et par le fait qu'on a un service effectivement qui est rendu d'une façon quasi immédiate qui peut procurer aussi du plaisir. Mais on a créé le besoin. On n'a pas répondu à un besoin. On a créé un besoin et qui a été créé d'une façon à ce que les personnes deviennent complètement dépendantes. Et la façon dont les interfaces sont programmées, les services sont conçus, c'est toujours pour rentrer ce qu'on appelle dans le trou du lapin, le terrier du lapin, c'est qu'on est dedans de plus en plus loin, et après on peut plus en ressortir. Et cette éducation numérique n'a jamais été faite. On a éduqué à utiliser des services du numérique, mais pas à réfléchir à nos interactions avec ces systèmes numériques, à nos besoins fondamentaux et comment ils pouvaient être couverts par des services.
Et ça, c'est pour les données que je dissémine, moi, plus ou moins volontairement. Des données que je peux parfois éviter de disséminer ou protéger. Parce qu'elles seront exploitées non seulement par des pirates, mais par des entreprises qui voudront me vendre des trucs. C'est sans compter les multiples objets connectés que nous utilisons ou serons amenés à utiliser. Le dernier lave-linge que j'ai acheté me donne la possibilité de l'activer à distance. Le problème ? Ce serait quoi ? Ce serait que des malfaiteurs s'emparent de ma machine pour faire du mal à mon linge ?
C'est surtout le fait, c'est quand on connecte un équipement, on ouvre des points d'entrée dans cet équipement et derrière cet équipement, derrière un aspirateur connecté, un robot ménager, c'est tout un système d'information qui nous est invisible mais qui appartient au fournisseur, qui travaille sur nos données qui sont fournies par l'équipement, par le jouet. Et ce point d'entrée de vulnérabilité pour aller de proche en proche dans les systèmes d'information permet à des acteurs malveillants d'exploiter ces données. Au-delà de l'aspect criminel, malveillant, il y a cet aspect de construction d'une économie qui est basée sur l'exploitation des données et non sur la protection. Et le but du jeu pour certains acteurs, c'est d'être les premiers sur le marché, c'est rendre le client captif et donc c'est pas fournir de la sécurité. Donc toutes les solutions informatiques que nous utilisons sont vulnérables parce qu'elles ne sont pas robustes d'un point de vue de la sécurité informatique. Il n'y a pas de sécurité by design.
Sécurité by design. Entendons-nous bien. Pas ou peu de sécurité durant la conception d'un objet connecté. Mais ce n'est pas l'objet qui est criminel. Les données récoltées sont utiles aux fabricants et elles peuvent être aussi la cible de piratage. Et l'objet lui-même, il est parfois une porte d'entrée sur un réseau, une porte pas toujours bien protégée. Bref, nous faisons face à plein de fragilités sans le savoir. Il y a quand même un truc qui me turlupine. À nos échelles d'individus, d'accord. Je n'ai pas été prudente et j'ai peut-être disséminé des infos sur moi en me connectant, en laissant des données volontaires et des traces involontaires. J'ai peut-être pris des risques inconsidérés, mais... David, on peut juste revenir en arrière un coup, là, dans l'interview ? Tu sais, je cherche le moment où Solange Garnaouti nous parle des risques. On peut revenir dessus ?
Oui, bien sûr. Attends deux secondes.
Condition qu'on soit en mesure d'en maîtriser les risques. Et ces risques concernent les individus, toutes les entreprises, toutes les organisations publiques ou privées, les grandes, les petites, et aussi tous les États qui sont aussi consommateurs du numérique.
Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Les risques concernent aussi bien les entreprises que les États. Ils ne sont pas plus précautionneux, les États ?
Les systèmes qu'ils ont utilisés, ils sont pas forcément plus robustes, mais ils ont plus de moyens pour rajouter des couches de sécurité que nous, utilisateurs. Mais tous les services ne sont pas hautement protégés. Les services qu'utilisent les gouvernements, les données, ça pose un problème, notamment quand on accepte que nos données de citoyens soient hébergées chez des fournisseurs étrangers, ce qu'on appelle des plateformes numériques qui appartiennent à des acteurs hégémoniques qui sont soit d'origine américaine, soit d'origine chinoise. Donc, quel contrôle on a ? Quelle possibilité de contrôle ?
Ah, c'est pas moi qui vais répondre à la question. Dans son livre Off, Solange Garnaouti met en scène les États-Unis. Un jour, tout à coup, panne électrique générale. Dans tout le pays. Sérieux, ça c'est la fiction. Dans la vraie vie, les réseaux, ils sont redondants. Si un serveur, un ordinateur ou un bitonio tombe en panne, les autres prennent le relais.
Vous avez raison, parce que sur l'origine de l'Internet, c'était ça, d'avoir un réseau suffisamment redondant avec plusieurs chemins possibles pour continuer à pouvoir communiquer. Mais ce qui a changé depuis, c'est que pour avoir de l'électricité, il faut avoir de l'informatique. Pour avoir de l'informatique, il faut avoir de l'électricité. Donc là, on est dans une situation extrême où effectivement, si on a une attaque sur les systèmes informatiques qui pilotent la distribution d'électricité, il n'y a plus du tout d'informatique. Et c'est cette cascade d'événements, c'est ce qu'on appelle un risque systémique de grande ampleur, où c'est l'effet boule de neige, c'est l'avalanche. C'est un petit truc qui va déclencher une grosse avalanche et qui va tout submerger sur son passage. Donc effectivement, du fait que toute l'énergie produite nécessite des équipements informatiques, que ces équipements informatiques sont connectés, que ces équipements informatiques peuvent avoir des vulnérabilités techniques, mais aussi la façon dont on les gère peut aussi être vulnérable, et qu'il y a des vulnérabilités humaines, il y a le moyen de prendre le contrôle à distance de ces systèmes pour les faire tomber. Et une fois que c'est tombé, il faut faire de la gestion de crise, il faut pouvoir repartir. Mais pour repartir, il faut de l'informatique.
Mais c'est quand même vachement pratique de pouvoir gérer un réseau électrique avec des ordinateurs. On le sait, un réseau électrique, c'est complexe. On peut pas vérifier chaque élément à la main, mettre une personne pour chaque bitonio dans chaque centrale.
Mais c'est justement ça le problème, c'est cette dualité, c'est qu'il y a plein de choses de pratiques, mais pour que ça soit pratique, il faut justement que les risques soient maîtrisés. Et alors on n'a pas, me semble-t-il, assez investi dans cette maîtrise des risques. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir de la sécurité dès la conception des systèmes et dégager des moyens financiers pour faire de la sécurité. Le problème de la sécurité, c'est pas qu'on sache pas faire de la sécurité, c'est que personne ne veut supporter le coût de la sécurité. Et faire de la sécurité, c'est dépenser de l'argent pour des situations qui peut-être n'arriveront jamais.
Donc, en fait, les brillants cerveaux qui ont développé tout cela ont mal fait leur job.
On a ces problèmes d'erreurs humaines sur toute la chaîne de fabrication du numérique, de production, de cycle de vie du numérique, plus les catastrophes naturelles. Regardez ce qui se passe quand il y a une inondation, quand il y a un départ de feu qui est d'origine naturelle, quand ça brûle, quand c'est inondé, ça fonctionne plus, parce que le numérique, c'est fragile. Donc on a des événements naturels externes qui peuvent aussi mettre à mal les infrastructures numériques.
Ah oui, je n'avais pas pensé aux catastrophes naturelles. J'hyperventile, là. En matière de sécurité numérique, nous sommes vulnérables en tant qu'individus, en tant qu'entreprise et même à l'échelle des États. On ne pourrait pas imaginer un Internet, des réseaux, des données mieux protégées et plus éthiques ?
Pour moi, l'éthique n'a pas de sens parce que c'est juste un concept qu'on peut modeler en fonction des circonstances. Donc le mot est tout à fait utilisé, mais souvent vidé de son sens. On nous parle de droits humains, on nous parle d'éthique, on nous parle d'usage éthique. Mais c'est pas l'usage qui doit être éthique, c'est la conception qui doit être éthique, qui doit être questionnée. Mais en fait, on se fait déposséder des vocabulaires relatifs aux droits humains qui nous concernent, nous, comme citoyens, qui sont appropriés par des fournisseurs de technologies, c'est-à-dire les fournisseurs, c'est les vendeurs. Et donc, ça nous empêche même d'utiliser ses propres mots pour questionner, parce que on peut être aussi un peu naïf ou avoir envie de croire que le monde est merveilleux, ce qui est aussi parfois merveilleux, et dire, bon, ben, l'éthique est traitée, la sécurité est traitée, donc j'ai même pas besoin de m'en préoccuper. Mais quelque part, c'est quand même une monstre tromperie. Et moi, je crois que le numérique tel que nous l'utilisons et nous le consommons aujourd'hui est basé sur un mensonge incroyable. C'est celui de la liberté, qui est une fausse liberté. Quand on est dépendant, nous ne sommes plus libres. L'idée de gratuité, c'est une illusion de gratuité, parce qu'on paye avec nos données. Et regardez toutes ces entreprises multinationales, ils ont bâti leur empire économique sur du gratuit. Donc ils ont transformé le gratuit, eux, en or, mais pour eux. Donc il y a vraiment des modèles économiques qui sont derrière tout ça. Donc la gratuité, c'est faux. La liberté, c'est faux. La capacité que nous avons à réguler peut être aussi très questionnable.
Bon, ben, il n'y a plus d'espoir. C'est la fin de cet épisode.
Non, moi je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi je pense qu'on a une chance incroyable malgré tout. C'est cette compréhension que nous avons des risques climatiques. Regardez les signaux d'alerte qui sont donnés depuis plus de 50 ans sur la perte de la biodiversité, sur le problème environnemental, sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme si le problème n'existait pas. Donc on l'a fait jusqu'à présent. Maintenant, il y a quand même un mouvement qui se met en œuvre pour dire mais c'est plus vivable, on ne peut plus continuer comme ça. Et bien, profitons de ce mouvement-là pour mettre en évidence les dérives liés au numérique tel que nous le connaissons. Moi, j'ai quand même un grand espoir que cette vision plus globale qui part du climat, qui nous touche individuellement, mais dont nos dirigeants politiques sont obligés de s'approprier la question, y compris sur les dirigeants économiques, de s'approprier le même type de questions parce qu'elles sont indissociables avec l'évolution du numérique. Et ça peut être un formidable levier du changement.
J'avoue que je n'avais jamais envisagé d'aborder le numérique et les outils que j'utilise comme le climat. En effet, chaque geste compte, les miens aussi, les vôtres aussi. Il y a tout de même un dernier point qui m'inquiète. Nos auditeurs, nos auditrices de ce podcast qui nous écoutent là, maintenant, par exemple sur des applications la nôtre, Play RTS, est-ce un environnement sécurisé ?
Tout l'environnement informatique, je ne le connais pas, donc je ne peux pas porter de jugement. Mais ce qui est souvent préjudiciable, ce n'est pas tant l'entreprise avec laquelle on a un contact direct, une confiance qui peut être établie. Et c'est après, c'est comment cette entreprise architecture son service informatique, ses services ou ses... Et le nombre d'intermédiaires qu'il y a derrière. C'est cette délégation. Souvent, le problème, ce n'est pas le point d'entrée dans le service avec une entreprise responsable. C'est toute la délégation de services qui passe derrière et l'externalisation par des acteurs, y compris à l'étranger, qui ne vont pas déléguer suffisamment de moyens pour la sécurité.
N'hésitez pas à aller jeter un œil sur nos clauses de confidentialité sur le site rts.ch. Et tiens, au passage, si vous vous abonniez à notre podcast sur Play RTS ou sur toute autre plateforme de votre choix, après avoir lu les conditions générales. Et si vous avez une question, confidentielle ou existentielle, n'hésitez pas à nous la poser sur notre adresse mail microscience@rts.ch. Elles ne sont lues que par moi et notre attaché de production. Elle vient d'ailleurs de rejoindre notre équipe, Andrea Glanville, attachée de production et nouvel élément du réseau de microsciences. Il y a aussi David Golan, réalisateur et démêleur de paquets d'informations aux oreilles ultra-vigilantes. Camille Dupont-Laït, coproductrice au cerveau hautement connecté. Jérôme Nussbaum, à l'habillage musical, interface entre les voix. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique, éparpilleuse d'épisodes de podcasts.